carrefour des arts. Théâtre et patrimoine, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Notre invité est aujourd'hui un comédien recherché et un homme particulièrement respecté et estimé, c'est Robin Renucci, pour lequel l'année 2009 restera sur le plan professionnel comme une année particulièrement faste. Il est, depuis décembre, la vedette au théâtre de la Michaudière à Paris de Désiré, pièce de jeunesse de Sacha Guitry, l'une des plus brillantes, l'une des plus libres dans le ton et les plus acerbes aussi socialement, mais également les plus originales sur le plan des relations amoureuses, une pièce qui laisse une douce nostalgie de ce qui ne se fera pas. C'est très drôle, mais en même temps très profond et presque sombre. La mise en scène est très rythmée, sans fioritures, l'interprétation est quasi unanimement remarquable. Avec tout cela, le succès a de bonnes chances d'être au rendez-vous. Mais avant cette pièce, Robin Renucci était également à l'affiche de la Comédie des Champs-Élysées, puis en tournée, avec un spectacle intitulé « Marcel Proust à la recherche du temps perdu », spectacle fait de lectures, d'extraits de cette œuvre, spectacle qui constitue vraiment, pour ceux qui aiment la rencontre la plus directe et la plus simple possible entre de grands textes et de grands comédiens, un moment de grâce intellectuelle et affective. Je dis « qui constitue » car le spectacle continue actuellement avec une distribution remaniée, sans Robin Renucci, au théâtre La Bruyère. J'ajouterais, concernant Robin Renucci, que son nom est également associé à l'un des succès les plus méritoires de la télévision française depuis plusieurs années, avec la série Un village français, chronique au long cours de la France sous l'occupation, qui est diffusée sur France 3, une chronique où il joue le rôle principal, celui d'un médecin de famille propulsé maire par les Allemands. Robin Renucci, bonjour.
Bonjour Jacques Pogam.
Alors, Désiré, revenons à Guitry, ou commençons par Guitry. Désiré, c'est donc une pièce qui date de 1927. Votre personnage a quelque chose de très très original, parce que c'est un valet, mais c'est un garçon intelligent, drôle, très beau parleur, culotté, c'est moins qu'on puisse dire. Et pourtant, ce qu'il aime, c'est recevoir des ordres, et en particulier, évidemment, des jolies femmes. Alors, psychologiquement, comment rentre-t-on dans un personnage comme ça? Et comment interprétez-vous cette disposition d'esprit et cette démarche, vous, quand vous avez à l'interpréter?
Ah, c'est d'une grande richesse, parce que, en effet, c'est un valet, mais chez Guitry, c'est un majordome aristocratique, en fait. Il veut parler, bien sûr, de la condition des maîtres et des servants, des serviteurs, mais qui ont de la classe. Voilà. Alors celui-là, on a particulièrement, il s'appelle Désiré, comme son nom l'indique, il provoque le désir. Et c'est une pièce, en effet, sur le désir, c'est-à-dire sur le refus ou la réflexion, en tout cas, du passage à l'acte. Désiré, en général, dans ses postes précédents, séduit les maîtresses au deux sens du terme, les patronnes qui deviennent ses maîtresses. Et là, cette fois-ci, il veut résister, car dans le désir, dans le chemin du désir, il y a quelque chose qui est, dans la frustration, un endroit qui le fait s'élever, c'est sans doute la sublimation, c'est-à-dire le désir de son travail.
Mais
il est capable d'aimer son travail encore plus, sinon plus, que les femmes.
Mais pourquoi cette fois-là?
C'est toute l'interrogation de la pièce. Sans doute que dans la hiérarchie des personnages, cette maîtresse, cette fois-ci, c'est une actrice. Alors, elle vit avec un ministre, le ministre de l'écoute, des postes et télécommunications de l'époque.
Assez phallo, un personnage.
Oui, mais qui est celui de l'écoute. Alors, il y a tout ce cheminement de l'oreille. Il y a un thème de l'oreille dans la pièce qui est là. Ce que l'on se dit, de ce que l'on se comprend à travers les portes, ceux qui écoutent aux portes, ceux qui savent ce qui se passe dans le front, sous les fronts des humains, et qui sont les serviteurs écoutant leurs maîtres, alors que les maîtres, souvent, ne comprennent pas très bien ce qui se passe chez les serviteurs. Et Désiré, lui, cette fois-ci, il va résister parce qu'il va y trouver un plaisir supplémentaire et une estime de lui-même sans doute plus grande, parce que cette femme n'est pas complètement elle-même aristocrate. C'est une actrice vivant avec le ministre, mais qui veut s'élever. Et lui, Désiré, veut s'élever encore plus, puisque ce qui lui plaît, c'est les maîtresses aristocratiques. Donc, il va résister.
Mais est-ce que ce qui lui plaît avant tout n'est pas le monde de l'imaginaire, en fait ?
Du désir, justement. De ce qui est incommensurable, de ce qui n'est pas consommable. Et quand Guitry écrit en 1927, peut-être en pleine crise économique américaine, hein, où il y a un désir confondu la plupart du temps avec, justement, la pulsion, hein, la consommation. Le principe de la pulsion, c'est qu'elle est immédiatement assouvie. Hein. Il y a pulsion, puis il y a assouvissement. Alors que dans le désir, on le dépasse, ça crée la frustration, ça crée la sublimation et ça crée peut-être un enthousiasme encore supérieur.
Certes, mais quand on regarde Désirer fonctionner, on se rend compte quand même qu'il est, prisonnier quelque part de sa vision du monde des patrons, parce qu'il le fait beaucoup plus beau qu'il n'est en réalité. Il leur prête des valeurs et un code d'honneur que finalement, lui, parfois, défend tout seul. Quoi. Alors, il a un côté Don Quichotte, là.
Ah oui, oui.
C'est
oui,
très
oui.
touchant, d'ailleurs. C'est très rare chez Guitry.
Très utopiste.
On est ému par un personnage. Ah, oui. Et c'est utopique, c'est Don Quichotte.
Ah oui, il est utopiste. C'est comme ça qu'il s'imagine les maîtres. C'est comme ça qu'il les souhaite. Et Sacha Guitry nous montre là un ministre pote, on vous l'avait dit, assez phallos. Son ami industriel, donc des postes de télécommunications ou vendeur de produits.
Un
mufle qui n'hésite pas à proposer ses millions et aller jouer au casino. C'est-à-dire l'argent de ses employés, il va le dépenser dans ses profits qui sont expliqués par sa femme assez clairement dans un repas très drôle, mais qui au fond a un sens très important. C'est que l'argent, on le claque facilement et on se soucie peu en fait du salaire des uns et des autres. Et ça, c'est raconté dans la pièce. C'est très étonnant. C'est une pièce qui a un caractère social très peu connu chez Guitry.
Mais dans ce côté chevalier, à un moment donné de la pièce, on a l'impression que vous vous prenez au jeu parce que vous avez un geste d'Hidalgo.
En fait, oui, sans doute. Hein, oui.
Ou même de Matador.
De Matador, voilà, c'est ouais. ça. C'est dans le début particulièrement où il pousse les stockades justement jusqu'à se faire employer, alors qu'il sait très bien qu'il ne devrait pas, puisque son habitude, c'est de tomber amoureux de ses maîtresses. Donc cette fois-ci, il a aussi besoin de travail. Ça fait 9 jours qu'il n'est plus chez la comtesse Dziebczynska où il était précédemment.
Et qu'il a eu une relation comme avec ses précédentes maîtresses.
Évidemment, ce qui l'a mis à la porte d'une certaine manière, ou qui a fait qu'il n'a pas pu continuer à travailler chez elle, et où il en est parti de son plein gré aussi, une fois qu'il a eu. Qu'il a possédé, il s'en va. Hein. C'est un gars qui a en effet une quête assez, assez sublime.
Est-ce qu'il y a des tenants quand même quand on parle du côté Hidalgo ? Donc non seulement il décide de ne pas passer de ses rêves à l'acte, mais qui plus est, il explique à Odette, donc la maîtresse du ministre, qui manifestement l'aime, il lui explique ce qu'il faudra qu'elle fasse dans la vie pour arriver à ses fins. C'est quand même, il s'est poussé très loin la générosité quand même.
C'est qu'il la comprend surtout. Il y a une sensibilité féminine chez Désiré extrême. Il comprend les femmes, comme Guitry sans doute les comprenait, et il va jusqu'à deviner, même anticiper sur ses pensées, sur leurs pensées. Alors celle d'Odette, bien sûr, qui est une femme qui veut s'élever, dont il conseille davantage de rester maîtresse plutôt que de devenir épouse du ministre, puisqu'elle sera remplacée par une maîtresse. Donc c'est tout à fait étonnant. Et il la conseille avec une acuité sur la féminité tout à fait extrême. Quoi.
Mais si l'aventure ne va pas plus loin, est-ce que ça ne tient pas au fait qu'Odette, même si elle l'aime, parce que manifestement elle l'aime, a finalement d'autres valeurs prioritaires qui sont justement cette ascension sociale, devenir une dame, soit en se faisant épouser, soit en s'affirmant comme une maîtresse respectable. Est-ce que ça n'est pas, même si elle aime,
c'est
ça, on le voit souvent chez Guitry, il y a des priorités qui sont, par rapport à l'amour, il y a d'autres priorités.
Voilà.
C'est vrai, là.
Si l'élévation de Désiré, c'est en effet sa sublimation dans son travail et l'intelligence qu'il y met à devenir un aristocrate dans son métier, il voit très bien que, et Odette le sent, elle veut s'élever, elle, dans sa condition personnelle, elle veut passer d'actrice, de cocotte, en fait, à femme de ministre, hein, c'est son souhait. Donc là, il y a une petite...
Mais ça passe avant l'amour.
Oui, sans doute.
Ça
sans
passe,
doute.
Oui. Mais il y a une chose, en tant que spectateur, on éprouve quand même un sentiment... frustration, c'est peut-être un peu grand, mais donc vous jouez le rôle d'un fils, petit-fils, arrière-petit-fils de domestique, extrêmement doué, c'est un homme plein de charme, mais on se dit quand même, mais pourquoi ne veut-il pas sortir de sa condition ? Mais vous avez l'impression que s'il sortait de sa condition, il serait, pour parler crûment aujourd'hui, complètement paumé, ou est-ce qu'il fait, il a tort de vouloir en rester là ?
Je ne peux pas le juger. Ce que je sais, c'est qu'il a un plaisir immense à regarder le monde et à en jouir réellement dans l'acuité et du regard qu'il en a. C'est-à-dire que pour lui, je ne suis pas sûr que de devenir maître serait un aboutissement. Hein. Ce qu'il aime, c'est servir, il le dit. Il dit dans le service, mais en tant que serviteur, dans toute la noblesse. Et là, peut-être qu'il y a un écho avec les comédiens. Vous voyez, nous, ce que nous aimons, c'est être des serviteurs.
Il dit servir, c'est quelque chose de merveilleux. C'est avoir le droit d'être sans volonté. C'est extraordinaire comme phrase. Quand on dit que Guitry ne, ne pense pas.
Ah oui, je pense que Guitry pense beaucoup en revanche. Mais en effet, j'y retrouve quelque chose de l'acteur. Au moment où je prononce ces phrases, ça me semble exactement comme pour l'auteur. C'est presque un conseil au comédien qu'il donne. C'est-à-dire, soyez serviteur de l'auteur, il vous le rendra beaucoup.
Et Guitry l'est dans l'âme, puisqu'à 5 ans, son père lui taillait les costumes des personnages que lui-même jouait.
Des rôles qu'il jouait en tant qu'adulte, il les faisait dans les costumes de son enfant.
Oui, il était acteur dans l'âme. Chez Guitry, est-ce qu'on peut dire que l'amour profond et durable, c'est vraiment l'exception?
Oui, il y a une quête inaccessible là, donc c'est rare de l'atteindre en effet.
La séduction qui compte. Quoi.
Oui, c'est la séduction et c'est le désir justement. Je crois qu'il en parle très bien. C'est le fait de ne pas forcément tout consommer, tout consumer et d'en laisser à venir et de se dire qu'il y a toujours à conquérir davantage.
Et alors, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas ensemble, c'est l'amour et le mariage. Quoi. Dans Désiré, il y a des phrases étonnantes là-dessus.
Oui,
t'aime trop pour t'épouser.
Exactement, il vaut mieux être maîtresse, que femme, oui. Sinon, elle sera remplacée de toute façon, cette femme.
Mais c'est très Troisième République, ça. Hein. C'est le faire du mariage une affaire sociale. Ça.
Oui.
C'est un aspect qui date un petit peu, ça, non?
Oui, bien que, il faudrait étudier la vie de tous nos concitoyens pour bien s'en rendre compte, mais ça n'est pas bien sûr. C'est certain qu'il y a dans le désir de la conquête permanente une sublimation supplémentaire.
Mais quand on rentre comme ça dans un personnage aussi important que celui-là, dans l'œuvre de Guitry, est-ce qu'on se dit, finalement, le théâtre de Guitry, c'est un théâtre de la solitude, au fond ?
Oui, il y a un homme et une femme, de toute façon, qui sont comme des constellations qui se frôlent, mais qui jamais ne peuvent s'unir totalement. Donc il y a une solitude sous-jacente, il y a même une souffrance, je crois.
Oui, c'est ça. Hein. Guitry, au fond, c'est grave, quoi. C'est pas...
Il y a un endroit grave, il y a un endroit qui lacère, c'est-à-dire qu'au milieu de quelques répliques, il y a un coup de rasoir très souvent, cru même, quelque chose de cru dans le langage. Et puis il y a une petite musique sourde derrière l'élégance de toute l'apparence volubile, puisqu'on entend très souvent la voix. Et la difficulté, je crois que pour l'acteur, c'est de ne pas imiter. Moi, je le connais peu, tout compte fait, Sacha Guitry. Donc je ne suis pas empli de sa sonorité vocale ou de son phrasé.
Mais tant mieux, parce qu'il y en a d'autres célèbres qui l'ont singé. Et plagié, je ne les citerai pas, mais Dieu merci,
pas,
vous rentrez, vous, dans ces personnages-là.
Il ne faut pas imiter, il faut, avec sa personnalité à soi, être serviteur, justement, de la trajectoire de la phrase qui, là, pour le coup, me séduit énormément, c'est-à-dire qu'il y a une vraie syntaxe d'un langage dans lequel on marche, il y a des pas déjà tracés, mais en fuyant l'imitation, ce que je suis incapable, de faire.
Alors, vous évoquiez l'univers social de Guitry. Là, on voit bien, c'est une pièce qui date de 1927, on voit bien comment, et je fais encore référence à la Troisième République, à l'époque, il y avait ce fossé extraordinaire entre les classes sociales.
Quoi.
Parce que il y a une phrase terrible dans cette pièce, lorsque quelqu'un dit, à propos des domestiques, mais il n'existe pas en tant qu'homme.
Ah oui, voilà.
C'est-à-dire, il n'existe pas en tant qu'homme. Donc, il y a...
Je n'ai jamais pensé le voir comme un homme.
Ouais,
c'est ce que dit Odette Cléry.
Ouais. Odette le dit alors qu'elle l'aime. Et en même temps, ce que Guitry montre très bien, c'est comment les domestiques, en tous les cas, dans cette pièce, la femme de chambre et la cuisinière, ont un regard non seulement très sévère, mais très lucide sur les patrons.
Oui. Oui. La première scène est très forte entre la cuisinière et la femme de chambre.
Quand elle raconte les conversations des patrons lorsqu'elle dit, ils ne parlent que de trois choses, ils ne parlent que d'argent, que de domestique, ou alors ils s'engueulent.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est ça.
Mais est-ce que ça ressemble pas justement ? Vous savez, je pense que dans un monde aujourd'hui qui est peut-être moins suranné et où les classes sociales sont évidemment moins... on les transgresse davantage, il y a évidemment chez aujourd'hui, si on reprend les professions de ces gens-là, un grand industriel, un grand ministre, il y a des gens de service. Donc comment ça se passe aujourd'hui ? Voilà, c'est ça qui nous serait intéressant de le percer.
Hein. Peut-être pas très différent, hein. Là où Guitry a un regard social d'ailleurs qui est attentif et pas du tout désobligeant à l'égard des gens simples, c'est lorsqu'il explique que finalement la rançon pour les patrons, c'est que eux qui ne veulent pas connaître les domestiques, ils n'y comprennent rien, alors qu'à l'inverse, les domestiques comprennent tout d'eux. Donc finalement, ce sont les patrons qui sont les dindons de la farce.
Et oui.
En
3 jours, on connaît déjà tous leurs défauts et en 1 mois, on sait tout ce qu'ils pensent. Eux, quand même, qu'on resterait 5 ans à leur service, ils ne savent rien de nous lorsqu'on nous les quittons.
Voilà, c'est la phrase.
Hein. Désiré parlant de ses maîtres. Oui.
Comment expliquez-vous l'énorme succès à nouveau de Guitry à Paris et ailleurs en France, puisque je faisais le pointage là. Depuis 4 ou 5 ans, on joue au moins 3 pièces par an de Guitry à Paris. Mmh. Pourquoi ?
le public, je crois, c'est-à-dire l'osmose qu'il peut y avoir entre un public qui n'est pas séparé, c'est un public rassemblé, qui vient rire avec intelligence, qui vient écouter un texte spirituel, un texte qui est riche dans sa forme, et puis qui demande des interprètes un peu virtuoses, c'est un peu comme des morceaux de musique, comme on aime une musique qui demande des solistes, par exemple.
Donc c'est très amusant à jouer.
Oui, joyeux à jouer, jubilatoire, et il y a une osmose vraiment avec le public. Il y a quelque chose qui se passe entre la salle. On voit bien entre les répliques et le.
D'ailleurs, hier soir, hier soir, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a un spectateur qui est intervenu à un moment du coup de téléphone.
Ah oui, il y a des gens qui disent. Ah bah alors le téléphone, oui, il y a des gens qui viennent parler. Oui, avec
les gens
nous.
se sentent partenaires.
Ah oui, au premier rang particulièrement, les gens parfois qui justement sont parfois plus âgés pour certains ou qui se mettent au premier rang pour mieux voir et qui commentent beaucoup. Hein, et donc ça, j'aime. Hein. Il y a à la fois un public jeune, ça dépend des jours de la semaine, brassé. C'est du théâtre populaire dans mon esprit.
Alors, Guitry, c'est la facilité, bien sûr, mais la facilité de création, plus de 127 pièces, 30 films. Et mine de rien, il a touché à peu près à tous les genres, parce qu'on pense toujours à lui dans les comédies un peu lestes, mais il a écrit des drames qui ont marché, il a fait des comédies musicales qui ont prodigieusement marché, il a fait des biographies superbes, Pasteur, Béranger, Beaumarchais, Talleyrand. Donc, un talent extrêmement diversifié, mais victime, toujours victime, probablement, de cette façon de vouloir ne pas donner l'apparence du sérieux, quoi.
Je crois qu'il avait une jubilation à vivre et un optimisme, peut-être une joie de vivre qui était gênante, en fait. Hein, surtout dans les années avant-guerre, on supportait. Pendant la guerre, c'était moins supportable. Et c'est quelqu'un qui a irrité par sa joie de vivre et la façon qu'il avait de dépasser, en effet, la souffrance qu'on ressent chez tout artiste. Et peut-être, et avec une élégance toujours de la parole, leste, rapide, au-dessus de tout cela, pour ne pas avoir l'air, pour donner le change. Voilà. Donc, il a irrité pas mal. Je pense qu'on le connaît mal et peut-être nous le redécouvrons aujourd'hui.
Oui, à travers des pièces comme ça, avec une mise en scène comme ça, qui quand même ne laisse pas de côté l'aspect psychologique profond et social, quoi. Vous parliez de l'esprit, alors là, les bons mots, rien que dans cette pièce. Alors, il y a l'humour un peu, pas très lourd, mais enfin, assez costaud quand même, lorsque quelqu'un dit à une femme « Vous ne vous habillez pas pour les hommes, mais contre les femmes », c'est quand même pas mal vu. Et puis, il y a toujours chez Guitry cette finesse, hein, sous l'apparence trompeuse des bons mots, lorsque la femme de chambre, qui est un personnage très intelligent, intelligent, lorsqu'elle, en parlant d'amour, elle dit « Ils ont tellement intérêt à être ensemble qu'ils ne peuvent pas s'aimer ». Et elle dit également « Quand on s'aime pour plus d'une raison, on ne s'aime pas vraiment.
Ouais. »
C'est quand même... C'est très fin.
Ah bah oui, on voit toutes les sources vraisemblablement chez Marivaux, chez Beaumarchais, voire chez Molière, de tout cela, hein, de l'écoute des maîtres et des servants, et puis et de l'intelligence sur l'amour, hein, sur le regard amoureux et sur ses mirages.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un voltigeur des mots, au fond?
Oui, bien sûr, c'est un amoureux de la phrase. Il y a sa phrase à lui, il y a son phrasé à lui, qu'il respecte d'ailleurs moins que ça, puisque ce qu'on sait de Sacha Guitry réellement, c'est que il jouait beaucoup les pièces, hein, là, celle-ci par exemple, Désiré avec Arletty, Poulain Carton, etc., Saturne Infâbre, puis ensuite il les tournait en 3-4 jours pour le plaisir. Et quand on voit le film de Désiré par exemple, comme d'autres, il y a moins de respect de l'écriture que ce que nous en avons nous aujourd'hui. Moi je veux absolument dire chaque mot parce qu'il n'y a pas un mot semblable et on voit que dans le phrasé, dans la syntaxe...
Il y a un rythme, quoi.
Ah oui, il y a un rythme formidable qui respecte moins une fois qu'il l'improvise. Comme il traitait le cinéma un peu comme un amusement, un grand plaisir d'être ensemble, j'imagine. Il tournait en 5-6 jours, et parfois il faisait de l'impro, comme on dit. C'était moins riche que l'écriture qu'il avait couchée sur le papier, qui, elle, est très, très travaillée.
Alors, il y a quelque chose, une formule que je ne comprends pas, mais j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous en pensez. C'est Marcel Achard, donc, qui a été un grand auteur de boulevard des années 50 et qui était un grand ami de Guitry, et qui parlait de Guitry comme du plus grand poète comique de l'époque. Poète.
Oui, alors les mots peuvent, à des époques différentes, avoir des acceptions, des sonorités différentes. Bon, il voulait sans doute dire que c'était un sculpteur de la langue. Hein. C'est un amoureux des mots qui est capable vraiment de nommer avec grande précision des éléments consistants, hein, des éléments qui ne sont pas perceptibles, qu'on ne peut pas définir totalement. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'infini dans le langage de Guitry qui est à tiroir. Hein. C'est pour ça que ça va vite. Le spectateur est intelligent parce qu'il n'a pas tout compris.
On lâche pas.
Et quand on relit, on est gagnant quand on relit. Parce qu'on dit, ah oui, en effet, c'est bien écrit.
Alors, il y a un vrai poète, lui, qui s'est adressé un jour à Guitry en lui disant « Je t'aime comme j'aime la France ». Est-ce que Guitry est, pour vous, le symbole d'un esprit français? Pour ne pas dire tous les esprits français, mais d'un... Qu'est-ce qu'il a de spécifiquement français, Guitry ?
Ah, c'est quand même un amour pour Paris, un amour pour la langue française, justement. Il est notre Oscar Wilde, si je puis dire, sans les comparer. Mais
au
fond,
il n'a pas eu de Joel de Reading, voilà. presque, comme il aurait pu.
Oui, il aurait
pas été loin.
Ça a frôlé un peu le scandale aussi dans sa vie. Mais c'est qu'il aime la France, il aime son pays et il aime la culture française. C'est pour ça qu'il nomme, je pense, derrière tout cela, tous les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, du 18e et des poètes qui ont parlé à la fois des classes sociales, à la fois de l'amour, du mariage, etc.
Donc et c'est pour ça que le grand public l'aime bien, au fond, se retrouve en lui.
Oui, je crois, il y a une histoire du pays. Oui, oui.
Alors, donc ça, c'est un... Je pense que c'est pas la peine d'être une pitié pour dire que ça fera un gros succès jusqu'à la fin de la saison, et peut-être après. Mais vous avez connu avant un gros succès, donc aussi, je le disais en commençant cette émission, avec Proust, donc ces spectacles de lecture. Vous étiez admirablement accompagné par Xavier Gallais, accompagné également par Bernadette Lafont. Et je disais que c'était un moment de grâce, c'est vrai. Personnellement, je n'étais pas le seul, je l'ai ressenti comme tel, parce qu'on entendait les mouches voler, y compris auprès de jeunes de 17-18 ans qui étaient pris par quelque chose. Alors, c'est un auteur difficile, Proust, il faut quand même le dire. Vous avez l'impression qu'il nous ramène, enfin, je vous pose la question parce que c'est l'impression que j'ai eue en vous écoutant, il nous ramène en permanence à nous-mêmes.
Mais oui, parce qu'il parle de l'anamnèse en termes techniques, c'est-à-dire la remontée du souvenir que l'on porte en soi-même et qui revient à la surface de notre mémoire et qui est capable de nous singulariser, c'est-à-dire de nous rendre soi-même. Hein. C'est-à-dire quand on va chercher au très fond de soi-même quelque chose de personnel, d'unique, de singulier, qui va remonter et qui fait que nous sommes des individus uniques. Alors, je trouve ça merveilleux. C'est toute la vie, tout le sens même philosophique de la vie, c'est d'une richesse formidable. Et lui, en s'attachant au goût d'une madeleine trempée dans une cuillerée de thé ou du tilleul de la tante Léonie, ça va remonter d'un coup, comme ça. Et la façon dont il le nomme, c'est ça qui est extraordinaire. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau des petits morceaux de papier, qui à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages reconnaissables. De même, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village, et leur petit logis, et l'église, et encore, tout Combray, et encore. Ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Je trouve ça formidable. C'est-à-dire que dans cet écrit-là, il y a la description que Sigmund Freud peut faire de l'inconscient. Quoi. C'est en mettant ça au fond de ma gorge, tout ça c'est venu. Et cette description est comme des morceaux de papier qui vont dans une tasse comme ça et qui vont se développer sous ses yeux en lui. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse, la découverte dans l'inconscient d'une réalité qui est unique et personnelle.
Vous dites anamnèse, c'est-à-dire que vous faites un lien entre Proust et Platon ?
Oui, oui, tout à fait. Ah oui, absolument. Sur la singularité, oui, oui, exactement. Dans mon esprit, c'est exactement là que ça se passe. C'est-à-dire que la singularité dont parle Platon également, c'est la liberté d'être soi-même, de devenir soi-même, car par sa capacité de remembrance, de souvenir, de réminiscence. Voilà, c'est toute la richesse.
Vous parliez de la Madeleine, tout le monde a entendu parler de la Madeleine. Peu de gens connaissent d'ailleurs les circonstances, parce qu'il est adulte au moment où il trempe
sa Madeleine. Oui, comme je viens de dire, c'est un soir d'hiver, il rentre chez lui, puis sa mère lui fait prendre une tasse de thé, et puis tout d'un coup, il se met à tremper ce petit morceau, et il se souvient de la tante Léonie quand il avait 5 ans. Quoi.
Mais avant, et c'est un texte que vous dites également, je dis dire, parce que vous le vivez, il y a quelque chose encore presque plus fort, c'est le baiser.
Oui, le baiser
à la mère, l'attente du baiser.
Ben oui, bien sûr.
Parce que... Vous pouvez raconter ça pour ceux qui ne l'ont pas.
Ben, toute l'histoire de Marcel Proust adulte, ce sont ces secondes de désir, justement, on retrouve là, hein, le désir, la question du désir, ce qui est donc frustrant, que l'on attend et qui ne vient pas. Et lorsque le soir, il se couchait dans son petit lit, et particulièrement lorsqu'il y avait des invités, maman ne montait pas donner le baiser nocturne. Et dans l'attente de ce baiser, dans ces secondes qui étaient des siècles, en fait, et la souffrance qu'il en éprouvait, il s'est construit totalement, c'est-à-dire qu'il s'est singularisé. Il était du petit Marcel, devenu Marcel Proust, capable ensuite d'écrire tout ce qu'il a écrit, et toute l'affection pour sa mère, mais aussi pour la vie et l'instant. L'instant, la seconde. Donc dans cette attente-là, il y a la frustration et tout ce qu'il a, tout ce qu'il est. Voilà. Et il attend le baiser de sa mère qui ne monte pas. Et Alors il triche un peu, il envoie une lettre par la servante, voilà, pour...
Il énerve son père.
Il énerve le père qui ne comprend pas la sensiblerie, c'est comme ça qu'il l'appelle, pas la sensibilité, mais la sensiblerie de l'enfant. Il lui demande d'aller se coucher sans le baiser, qui pour lui est une immense souffrance, que l'adulte peut ne pas comprendre, au fond, mais que chaque enfant, s'il se souvient de son rapport affectif, affectueux, comprend parfaitement.
Donc vivre, c'est ressentir, quoi, avec Proust.
Ah oui, c'est être soi-même dans sa perception personnelle. Voilà, c'est unique. Voilà, c'est ce qu'on ressent au tréfonds de soi-même.
Mais en vous écoutant, on se dit que la mémoire, c'est plus que quelque chose de fondamental.
C'est majeur. C'est pour ça que vous parliez de Platon à l'instant, je le crois profondément, et c'est un thème philosophique un peu grave, sans doute, ou en tout cas, ça a une grande légèreté dans mon esprit, mais c'est profond, c'est le fait de la mémoire individuelle, c'est ce que nous sommes dans nos mémoires. Et que Platon nomme, par rapport aux sophistes, en disant, attention, vous mettez votre mémoire dans des supports de mémoire, dans les hypomnémata, c'est-à-dire ce que sont aujourd'hui en fait nos téléphones ou autre chose, ou ne serait-ce qu'un carnet d'adresses. Au fond, ce qui est important, c'est de se souvenir du téléphone de sa mère, de son père ou de son frère, ce que nous ne savons plus faire aujourd'hui. Nous plaçons dans des supports de mémoire, et toute la technologie, toute l'histoire de la technologie, c'est de ne jamais fuir le progrès, car à mon sens, c'est une avancée, mais à condition que ça ne nous confisque pas notre mémoire et notre capacité d'individuation, c'est-à-dire de singularité mentale, de ce que nous sommes à l'intérieur de nos cerveaux.
Singularité et lien, c'est ce qui relie aux autres. Sans mémoire, on ne peut pas...
Exactement.
On ne peut pas être relié aux autres.
Oui, c'est cela, c'est qu'il faut être soi-même. Mais être soi-même, c'est justement ne pas céder. Regardez tous les gens qui pensent être eux-mêmes. Et on voit très bien comment la publicité s'empare de ça. Soyez vous-même en portant tel parfum. C'est-à-dire que vous devenez particularisé, mais pas singulier. Le singulier, il est infini. Et le particulier, c'est un morceau du tout. Alors on vous particularise et vous vous particularisez. Or, dans votre mémoire personnelle, vous êtes vous-même. Voilà. Et je dis à chacun... d'un point de vue artistique, tout autant que mais alors le public d'ailleurs partage et participe à l'acte artistique, que les artistes eux-mêmes d'aller à leur singularité. C'est toute la richesse.
Alors pour revenir à l'analyse sociale de Proust, après celle de Guitry, comment expliquez-vous ce curieux mélange qu'éprouvait Proust de fascination et de recul par rapport au monde dans lequel il vivait? Enfin, il y avait les deux, quoi. Il était... entre deux
chaises, mais on peut le retrouver chez Pessoa, ou Pessoa qui dit tout le temps partir, partir. Le thème de Pessoa, c'est de partir, et en fait, il est toujours resté. Donc, il y a à la fois la compréhension du monde dans son invention, dans sa chambre noire, dans sa chambre photographique, dans le souvenir, dans justement la mémoire, qui le met en lien absolu avec le monde, plutôt que de vivre réellement les choses. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce domaine-là, qui sont justement dans une sublimation, dans un endroit où ils dépassent du concret pour s'élever, pour sublimer, et pour le décrire encore plus précisément que s'ils le vivaient.
Alors, dans le petit texte extraordinaire de la Madeleine, donc que vous lisez et vivez sur scène, on se rend compte que à ce moment-là, Proust dit « ma vocation est là ». Et est-ce qu'au fond, sa vie n'a pas été sauvée parce qu'il s'est senti investi de la mission de recréer le passé à travers sa mémoire? Est-ce que ça n'a pas sublimé, au fond, une vie très morne?
Oui, je sais pas
sentir cette mission.
Je ne sais pas s'il avait une mission, c'est que c'était impossible autrement pour lui de vivre, vraisemblablement. On sait par ailleurs, il était asthmatique, il avait des difficultés, on n'a pas d'enregistrement réellement de lui, mais il y a des descriptions de sa voix et de son phrasé, et on sait comme ça qu'il avait du mal à aligner des phrases. Donc cette volonté sur le papier de coucher, parce que je crois d'ailleurs qu'il écrivait par morceaux de papier, c'est-à-dire qu'un sujet devenait un sujet court, de ce qu'il voulait dire, puis il y revenait, puis le morceau de papier s'allongeait, ça devenait un sujet long, de même qu'un verbe pouvait devenir très 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 long, un verbe avec toutes ses possibilités langagières, syntaxiques derrière. Donc il allongeait la phrase, il allongeait la pensée, et voilà, il y a une force comme ça. Alors je ne sais pas si c'était une mission, c'était surtout une volonté de dépasser un handicap peut-être.
Oui, se sublimer quelque part. Ouais. Alors quand on regarde le succès, ce n'est pas un hasard si vous êtes associés aux deux là, Guitry, Proust, mais quand on regarde également le succès au théâtre récemment de Stefan Zweig, quand on voit le succès de certaines pièces classiques, La Nuit des Rois, La Serva Amorosa, Lava, est-ce que la mode n'est pas un retour à une certaine élégance dans l'expression des sentiments et à une certaine pudeur dans l'expression des sentiments ?
Peut-être que le déballage auquel on assiste en permanence avec la télé-réalité, avec le rapport à la consommation, au consumérisme du corps, totalement dévoilé, où il n'y a plus de zone de recherche d'inconnu, nous ramène à des auteurs qui, eux, parlent de l'inconnu, de l'incommensurable, du très lointain et des objectifs inatteignables. Je crois que ce sont les poètes, justement, ceux-là dont on parle.
C'est en cela que Désiré est finalement une pièce très moderne.
Voilà, je crois. Enfin, moi, j'ai eu le désir de désirer Désiré, parce que j'ai proposé et le metteur en scène, qui est mon compagnon d'aventure, Serge Lipsic, avec qui nous avons...
C'est vous qui êtes à l'origine de toute l'aventure.
Ah, oui. Et du choix des comédiens, en grande partie.
Metteur en scène très bien choisi.
Du metteur en scène, Serge Lipsic, il est mon compagnon de travail en Corse, dans l'aventure que nous avons menée en Corse depuis 13 ans. L'ARIA, en effet, qui a cette mission justement de singularité, c'est créer des singularités. Mmh. Voilà. Mmh. Et nous voulions monter, grâce au producteur Jean Martinez et au théâtre de la Michaudière qui nous accueille, une œuvre pour rencontrer le grand public. Voilà, je crois que c'est réussi, heureusement.
Alors, vous disiez tout à l'heure, donc, vous parliez justement de ces rapports avec le public, mais quand vous êtes seul, c'est encore plus évident. Vous disiez, il n'est pas passif, il est partenaire. Alors, comment vous voyez le triangle auteur, acteur, spectateur? Comment vous le vivez, vous, quand vous êtes sur scène?
Alors, je le vis assez clairement, un peu à l'image de Charles Dullin, d'ailleurs. Hein, c'est que le public est premier dans mon esprit. Le public est premier. Et j'ai un grand respect. Alors, ce ne sont pas des mots en l'air. Il est capable du pire comme du meilleur, ce même public. Mais ce qui compte, c'est quand il est là, je m'adresse à lui avec une dignité, un respect absolu, c'est-à-dire l'envie d'être en contact absolu avec lui. Et je suis un serviteur de l'auteur. Donc, c'est déjà le public, l'auteur qui raconte et qui nous relie public et acteur, et des acteurs serviteurs. C'est comme ça que j'entends le théâtre. Dès que l'acteur devient vedette, produit de vente, etc., les jeux sont faussés. Voilà, le jeu est faussé. En revanche, si on est dans ce triangle, en effet, le public, l'auteur au milieu de nous et l'acteur serviteur, il y a théâtre.
Et au cœur du triangle, il y a quoi? Il y a l'imaginaire?
L'imaginaire. C'est l'imagination qui nous fait nous rejoindre, qui nous connecte, hein, qui est cette puissance qui ne peut exister que par ce triptyque. Hein. Si vous enlevez un de ces trois pieds, ça ne fonctionne pas. Vous êtes un acteur en train de dire un texte, sans le public, il n'y a pas théâtre. Un public qui n'a pas d'acteur, avec un auteur, ben c'est mort, c'est couché sur le papier. Il faut ces trois éléments-là. Alors cette connexion-là fait qu'il y a l'imaginaire, l'imagination, qui transcende tout, et c'est ce que vient, je crois, chercher le public depuis des millénaires. À la fois d'un point de vue social, de réunion et en même temps de philosophie, de désir de partager, de se dépasser, et que la surcharge médiatique dans laquelle nous vivons en 2009, 2010, aujourd'hui, eh bien, nous ramène peut-être encore plus à ce désir grec, sans doute, platonicien, justement, de l'invention de l'imaginaire commun.
Ah, vous parlez des Grecs, mais un jour, en parlant de ça, de ce sujet-là, vous faisiez un lien entre votre travail, nous créons du « nous ». Et vous ajoutiez un mot grec à côté de ça.
Il y a du nous aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit. Hein,
nous et nous.
Oui, il y a les deux. Et oui, c'est créer du lien, c'est la base même du théâtre. C'est pour cela que le théâtre reste mystérieux pour beaucoup de gens. Pour ceux qui le pratiquent avec une certaine exigence, c'est très concret. C'est ce lien-là que nous cherchons. Le public parfois ne le sait pas. Parfois, le public devient consumériste lui-même, c'est-à-dire qu'il va consommer quelque chose. Il va consommer une pièce, il ne sait pas trop pourquoi. Mais ce qui compte, c'est d'être en train de voir, entendre, ensemble et en direct, dans l'instant. C'est pour ça que le théâtre continue à exister avec autant de force. Et ça nous élève. Bien sûr, ça nous fait monter d'un cran, hein, ça nous met au-dessus. Et on est ensemble. Et ce goût d'être à côté de quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui va rire en même temps que vous, c'est ce qui se passe en ce moment au théâtre de la Michaudière. Des tas de gens qui n'ont pas de lien direct, de nature sociale, générationnelle, et qui rient ensemble. Qu'est-ce que c'est merveilleux! Ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais lorsqu'ils en sortent, il s'est passé un acte en eux qui est puissant.
Mais pour vous, quand vous jouez, c'est sortir de vous-même?
Oui. Exister, de toute façon, c'est cela, hein, étymologiquement.
Vous voulez dire en
sortir
ex-
de soi.
Exister. Ah,
oui. Le ex, pour moi, il est expulsé, exister. Tout ce qui nous fait sortir de soi nous fait être nous-mêmes. Voilà, c'est la base même d'être soi-même. Être hors de soi...
C'est respirer.
Nous fait, oui, c'est expirer. Et lorsqu'on expire, l'on respire. On confond souvent dans la respiration inspirer, c'est ce qu'on fait chez le médecin ou dans la cabine du radiologue. Hein, alors, mais non, personne ne respire comme ça réellement. Nous expirons en permanence. Et parce que nous existons, nous expirons. Parce que nous expirons et que nous sommes nés par le premier souffle et nous quitterons la Terre avec le dernier souffle, c'est bien une histoire de souffle. Et là, on ne peut pas le maîtriser. Quelque chose d'inconnu, là.
C'est-à-dire le souffle qui nous relie à l'autre.
Qui nous relie à l'autre, oui, qui nous pousse vers l'autre, qui nous extériorise et qui nous fait nous exprimer, justement.
Tout à l'heure, vous évoquiez Jouvet, vous avez presque cité une phrase de Jouvet, j'aimerais que vous la citiez entièrement parce qu'elle est extraordinaire, cette phrase.
Marcher dans les pas de l'autre, oui, parce que c'est l'histoire du personnage, c'est ce qu'il dit, je crois, dans Écoute mon ami, mais voilà, le personnage, c'est quelqu'un qui a marché avant vous dans du sable, et le fait de remettre nos pas dans les pas de cet autre-là, eh ben, vous fait devenir un peu lui-même. C'est-à-dire que vous allez savoir s'il a marché vite, s'il a marché doucement, s'il y a eu une interruption dans sa pensée, s'il a enfoncé davantage son talon, qu'il s'est appuyé dans le sol, ou au contraire, il a été leste dans sa marche. Donc, c'est aussi une question d'écoute, de sensibilité et de serviteur. Voilà, c'est ce qu'est l'acteur par rapport à un personnage.
Ce qui veut dire que pour vous, exister, c'est donc sortir de soi, mais pour vraiment se connaître, il faut se lâcher à l'autre, quoi.
Oui, il faut se relier, il faut s'offrir à l'autre, il faut se donner, il faut s'oublier soi-même, sans doute. Oui.
C'est pas loin de la psychanalyse, hein, en fait, de la psychanalyse sans le savoir. Le lâcher prise, c'est de la psychanalyse,
oui,
non ?
Oui, sans doute, oui, c'est d'une part la parole, hein, l'idios, c'est-à-dire le langage, la singularité, le sens même du mot, hein, c'est être singulier, voilà. Et plus l'on est singulier, plus on est riche pour tout le monde, riche pour le monde. Et on voit bien que notre monde, si je peux être politique un peu, nous fait perdre ces singularités, joue de cette différence entre singulier et particulier pour davantage nous contrôler, je dirais, hein, nous rendre particuliers plutôt que singuliers.
Alors souvent, quand vous parlez de ces questions-là, vous donnez des exemples à partir des mots tout simples comme le verbe « avoir » et le verbe « être » et le fait de passer de l'un à l'autre. À propos de la faim, par exemple, vous avez une très belle image à ce sujet-là. Vous vous souvenez de votre image parce que
oui,
ça m'avait frappé.
Sans doute parce que je le vis au quotidien, c'est-à-dire que nous avons habitude de tutoyer le langage et de nous en servir, justement, au lieu d'être serviteur, hein, du mot qui nous fait. Dans mon esprit, nous sommes davantage faits par les choses, et alors qu'on passe notre temps à vouloir les faire, les prendre, les avoir. Et lorsqu'on a, par exemple, faim, eh bien, avoir faim ne veut rien dire, c'est être tenaillé par la faim. Celui qui aujourd'hui, en ce moment même où nous parlons, est en train de mourir de la faim quelque part dans le monde, et il y en a chaque seconde, on le sait, de nombreux, bien trop nombreux, eh bien il est tenaillé par la faim et il n'a rien. Nous disons « j'ai faim ». Avoir faim, ça ne veut rien dire. Être tenaillé par la faim, donc c'est être tenaillé. Le mal dedans, c'est pareil, on est obsédé par un mal dedans, mais on ne l'a pas. C'est lui qui vous a, le mal. Et le son que l'on entend, c'est un son qui vient à votre oreille. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de faire ou d'avoir. Vous voyez. Donc, ce respect du... Et pour l'acteur, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que lorsqu'on joue, en fait, nous sommes joués. Voilà. On est joué. On est joué par la langue de Guitry, on est joué par un personnage, on est joué... Et en cela, on est serviteur. Et je rejoins le personnage de Désiré, parce que servir dans ce cas-là, alors là, c'est gratifiant et c'est bien plus important que de posséder.
C'est l'Hidalgo, quoi. On y revient. En vous écoutant, j'allais vous proposer une maxime, hein, des vers de Valérie. Je trouve que ça colle très bien à votre démarche, à vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte, c'est dans Palme. « L'âme se dépense à s'accroître de ses dons. »
Ah ouais, c'est exactement ça. Ouais. Valérie qui disait lui-même qu'il ne fallait pas se précipiter à la quête du sens, mais qu'il fallait laisser les mots faire leur travail. C'est le simple fait de les dire, justement, vous fait, voilà, agit sur vous. Et je crois beaucoup à ça.
Alors, dans le domaine du théâtre, vous êtes donc l'un des principaux défenseurs, promoteurs de l'éducation populaire, entre autres à travers ce que vous faites l'été dans votre région superbe de Corse, les rencontres que vous organisez entre des amateurs et des artistes venus du monde entier. Pour vous, fondamentalement, l'art, c'est l'affaire de tous, c'est pas une petite élite qui a le droit de s'accaparer ça, tout le monde. L'art et la culture, ça appartient à tout le monde, quel que soit le niveau de difficulté de ceci ou de cela.
Mais oui, parce que l'art, ce sont les traces, en effet, les traces que l'on laisse. Hein. Les traces en archéologie sont faites de la poterie, du morceau de mur, de la mosaïque, voilà, ou du dessin sur une grotte de Lascaux ou de la grotte Chauvet. Donc, c'est pas tout à fait quelque chose qui est de l'ordre de la confusion entre une œuvre et un produit. C'est-à-dire que l'art n'est pas un produit, n'est pas quelque chose qui a une valeur marchande, mais c'est un acte puissant que l'homme fait pour laisser une trace aux autres. Donc ça, ça appartient à tous, puisque c'est être soi-même, encore une fois, et laisser une trace de soi-même, et permettre à chacun d'avoir la capacité de se croire digne de laisser une trace. Or, dans nos vies, très souvent, on donne à certains la capacité à le faire, et d'autres qui disent « Ah non, ben moi, alors là, lire à voix haute un texte à quelqu'un, moi je sais à peine lire, non, je ne me permettrai pas de prendre la parole. » Or, on le sait depuis les Grecs, encore une fois, que prendre la parole, c'est s'individuer, c'est le premier acte de démocratie, c'est dire « je ». Apprendre aux autres à dire « je », c'est créer une part de soi.
Vous pensez que les enseignants, en fait, qu'à l'école, ça devrait être la première chose qu'on inculque aux enfants, leur dire possède les mots, prends-les, exprime-toi.
Je suis un grand défenseur de l'éducation artistique et culturelle à l'école. Mon premier geste, c'est la formation des formateurs. C'est-à-dire, ce que je souhaite absolument, c'est que l'on retrouve, et je ne stigmatise pas aujourd'hui le corps enseignant, mais je dois tout à mes enseignants, par exemple, de l'école primaire ou de l'école secondaire, hein, de tous les cycles. Parce qu'ils étaient eux-mêmes participants, souvent dans le monde associatif, d'un club de poésie et chanson, d'un groupe théâtre ou autre. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de s'individuer eux-mêmes. Ils avaient une forte présence devant moi, par leurs paroles, par leur autorité, par leur capacité à être auteur de leurs actes pour permettre à l'élève de devenir auteur des siens. Et lorsque le corps enseignant aujourd'hui est minoré dans sa formation, ça me pose souci, et l'éducation artistique est présente derrière cela. C'est-à-dire que l'enseignant lui-même n'a pas goûté sa propre individuation. Parfois, il ne sait pas vraiment lire à voix haute, raconter une histoire à ses élèves, prendre la parole. On va lui demander de faire de la discipline, mais ne pas avoir l'autorité qu'on va confier plutôt à un policier qui va faire de la discipline à l'entrée de l'école.
Sans autoritas.
Ce n'est pas tout à fait pareil. À autoritas, l'autorité qui vous donne, qui rend auteur de vos actes et surtout qui vous augmente. L'autorité qui augmente celui qui reçoit. Pour être augmenté, il faut avoir vécu soi-même cette capacité à être individué. Et je crois que les enseignants sont les premiers lecteurs de leur classe, les premiers diseurs d'histoire, les premiers conteurs de la connaissance. Donc là, il y a quelque chose de l'ordre de la pédagogie que j'ai reçu et qui a été le ferment pendant 50 ans, hein, depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui, de l'éducation, qui est valorisée désormais au profit de l'enseignement, c'est-à-dire des savoirs qui sont montrés, ce qui s'enseigne, ce qui se montre, hein, plutôt que ce qui se partage au plan symbolique, donc dans le cadre d'une pédagogie plus affirmée. Et je crois que les métiers du théâtre, de la poésie, de la musique, des arts permettent, dans l'échange partenaire enseignant-artiste, de donner à l'élève le meilleur.
À condition de savoir entrer dans les symboliques. Vous, par exemple, vous êtes très sensible à la portée quasi-philosophique des sons. La différence que vous faites entre le « i » et le « o ». Moi, je n'avais jamais entendu ça, mais c'est quand même étonnant.
Mais oui, ce sont des vibrations au-delà du sens sémantique, de tout ce qui est biologique. Ça va être, tous ces signes-là, c'est avant tout du symbole. C'est-à-dire que si on a dessiné un « i », on a fait un « i » avec ce trait et ce point qui vient le sublimer, l'élever encore davantage parce qu'il est aigu et que dans cette vibration-là, il nous amène à quelque chose de spirituel, justement. Le nombre de « i » que l'on retrouve dans notre langue française.
Esprit, philosophie, ciel.
Bien sûr.
Tout ça élève.
C'est ce qui nous élève, bien sûr. Alors qu'un « ou », tout ce qui est lourd, va se traduire par des phonèmes graves. Alors, avant de devenir du symbole écrit, c'est-à-dire des graphes sur de la cire ou de la pierre ou autre chose, ce sont un O avec sa rondeur et cette boule-là nous ramène à quelque chose d'immanent, de lourd, alors que le
sabot, quoi.
Le
socle.
Le socle, ce qui est lourd, etc.
Donc, et tout ça, c'est des millénaires d'histoire.
Des millénaires de mémoire d'individus, d'hommes, qui ont transmis en écrivant. L'écriture n'arrive que tardivement, mais déjà l'oralité, c'est-à-dire le son même sorti de tout le système phonatoire de l'individu, nous vient des millénaires derrière nous.
Et c'est la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité, que la langue crée le lien.
Tout à fait. Alors, elle perd justement cette valeur lorsqu'elle est mise dans des supports de mémoire. Et c'est là qu'il faut faire. On revient à Platon et aux sophistes. C'est là le problème. Or, la parole, c'est vrai que les métiers des arts, des acteurs, et quand on a parlé de l'école, c'est très important de donner la parole, d'autoriser l'élève à devenir auteur de ses actes. C'est un acte puissant d'émancipation et de véritable démocratie.
Ce qui veut dire, oui, vous parlez de démocratie, mais dans tout ce que vous faites, vous revendiquez l'utopie.
Oui, absolument. Je suis un utopiste. J'ai écarté de mon langage le mot optimiste, pessimiste. Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'agis concrètement. Alors j'agis dans le cadre de mon métier artistique, c'est-à-dire je fais tant que je le peux rêver les autres et imaginer, mais dans ma vie associative, où je crois que c'est un endroit aujourd'hui politique très riche, le cadre associatif, eh bien, en tant que président d'association, je développe toutes ces données très concrètement en permettant à des enseignants d'approcher dans les partenariats avec les artistes leur individuation et leur capacité à être les premiers auteurs de leurs actes dans leur classe, des artistes à être davantage responsables, un public à comprendre mieux ce qu'est un produit ou une œuvre, ne pas consommer du spectacle, mais y participer, être un partenaire dans une salle ou à la télévision. Et j'essaie aussi à la télévision, qui est le lieu aujourd'hui quand même politique assez dévoyé de ce point de vue-là, puisque la télévision a vécu beaucoup de la publicité et du consumérisme, de retrouver dans le service public la possibilité de nous relier là également.
Alors, prenons justement un exemple, il ne nous reste que 5 minutes malheureusement, mais on a le temps d'évoquer ça. Votre nom est donc associé à un grand succès de la télévision publique de ces derniers mois, donc Un village français, la chronique de la France quotidienne sous l'occupation. Comment vous expliquez ce formidable succès, ce retentissement populaire de cette série, dont le budget n'est pas énorme et qui marche formidablement. Voilà. Comment expliquez-vous cela ?
Mais la façon dont on parle aux gens, justement. C'est la façon dont on parle aux gens. Qui, eh bien, les auteurs, Frédéric Crivine, Philippe Tribois, Emmanuel Dossé, ceux qui ont projeté cette aventure, de dire « Et si nous nous parlions longuement ?» D'une période qui a été fondatrice pour nous tous, puisqu'elle est chargée à la fois de désespoir profond et en même temps d'utopie, c'est-à-dire la moitié du siècle dernier, la guerre de 1939-45, et que l'on raconte la vie des gens, non pas à l'aune de la mémoire, c'est-à-dire ce que l'histoire en a gardé, mais au quotidien, avec un miroir d'actualité, de dire regardez comment ça se fait que l'on ne savait pas que être dans cette violence agressive contre les Juifs à l'époque, c'était une façon tout à fait quotidienne. Il n'y avait pas du tout c'était de bon aloi de parler de cette façon-là. L'appel du 18 juin, personne ne l'a entendu véritablement. Or, quand on lit nos manuels d'histoire, on a l'impression que nous avons été tous des résistants de la première heure. Mais rappeler aux gens qu'ils étaient 95% à n'être ni collaborateurs ni résistant, simplement vivant comme nous le sommes aujourd'hui, en train de regarder le monde au quotidien et à tenter de subsister si l'on pouvait, et bien c'est une façon de parler aux gens différemment. Et ça a réussi parce que là, le public souhaite entendre autre chose que ce qu'on lui raconte d'une manière condensée, et surtout, il n'est pas dupe du fait qu'on veuille le diriger vers une page de publicité. Or, aujourd'hui, sur la télévision sans publicité après 20h, service public, sur France 3, mais ils écoutent et ils sont nombreux à partager différemment l'histoire.
Alors, ces derniers mois donc, ont été pour vous une période de très, très grand succès. Qu'est-ce que vous allez faire de ce succès ?
Me fortifier davantage pour tenter d'autres aventures, parfois plus risquées encore, y mettre davantage d'énergie aussi dans ma vie militante et associative, comme je le disais, c'est-à-dire tenter que cette aventure que nous avons fondée en Corse rayonne encore plus, que nous puissions obtenir davantage de force auprès des politiques, par exemple, qui nous écoutent un peu différemment, lorsque l'on parle en effet de l'éducation artistique par la formation des enseignants, lorsqu'on veut que les artistes soient plus responsables, et un public qui est adossé à un succès parce qu'il y a participé, lui expliquer pourquoi il a été aussi partenaire et comment. Donc c'est continuer, voilà, tant à la télévision qu'au cinéma, peut-être aussi continuer à créer au cinéma. J'ai fait un film en tant que réalisateur, j'aimerais continuer.
Oui, en langue corse, ça, quand même, ça limitait l'audience quand même.
Oui, mais justement parce que je voulais être au plus proche de l'idiome, de la langue et d'une langue latine par excellence et qui nous rappelait la singularité par rapport à l'uniformisation dans laquelle nous sommes projetés. Bientôt, si nous nous écoutions, nous laisserions aller, il y aurait un laisser-faire de dire, bon, bah, après tout, ce qui compte, c'est le sens, et qui est qu'une langue internationale, tout compte fait, pour que le commerce des hommes circule mieux, est-ce que ça n'est pas cela la bonne voie du libéralisme, de dire, après tout, commerçons davantage les uns avec les autres.
Vous opposez les racines à cela.
Voilà, moi je crois qu'il faut garder la singularité, et toute perte de singularité est une perte pour l'ensemble de l'humanité.
Alors en 2006, vous avez écrit un livre et vous étiez présenté comme un ardent insoumis. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, enfin, j'ai l'impression en vous écoutant que la réponse, elle est évidente d'ailleurs, vous le restez, vous le resterez.
Oui, mais avec beaucoup de, vous l'entendez, je suis un pacifiste, je suis attentif au respect des uns et des autres, à l'écoute des uns et des autres, à tous ceux qui ne pensent pas comme moi, et à tenter à chaque fois de répondre par... si je le peux, l'esprit ou l'intelligence, en tout cas en m'appuyant, en m'adossant aux philosophes et à ceux qui ont un langage puissant de paix, pour que nous nous rencontrions davantage les uns et les autres.
Robin Renucci, merci. Je rappelle que vous êtes donc depuis décembre 2009 la vedette au théâtre de la Michaudière à Paris de Désiré, la pièce de Sacha Guitry, une pièce de jeunesse qui date de 1927, mais qui est très très actuelle. Hein. C'est l'une de ses plus brillantes, de ses plus libres aussi dans le ton et peut-être des plus acerbes socialement, très originales sur le plan de la description des relations amoureuses. Et on est même très très surpris de ce qu'il dit à ce sujet. C'est une pièce drôle, mais qui est très profonde et ça va surprendre certains, parfois assez sombre. Mais ça vaut vraiment le coup de la voir. Merci à tous et à toutes d'être avec nous.